RMC Motors avec Motorsport TV, Jean Lecroix.
Et oui, bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de sport mécanique chaque dimanche dans cette émission Motors, la seule émission qui parle de sport mécanique sur toutes les radios, c'est de 13h à 14h, c'est gratuit et on en parle évidemment avec Adrien Tambay pour parler de F1. Salut Adrien.
Salut Jean-Luc, salut à tous.
Mais pas seulement, parce qu'on va parler de WEC, hein, tu le sais, tout à l'heure avec le président Pierre Fillon qui est présent au Portugal d'ailleurs pour la dernière épreuve de l'ELMS, l'European Le Mans Series, et puis on parlera de moto bien sûr, je sais que ça t'intéresse aussi, puisqu'en toute fin d'émission avec Benoît Boutron, on parlera de ce Grand Prix de Phillip Island. Alors j'espère que vous êtes réveillés tôt ce matin parce que ça va aller à baston, mais comme on en voit que la moto, c'est peu de le dire. On va commencer bien sûr par la Formule 1. C'est donc le 17e Grand Prix de la saison à Austin. Adrien, on a déjà vu une belle bataille pour les qualifs, finalement un poil plus serré que ce à quoi on s'attendait compte tenu de la domination exercée par Lewis Hamilton. On le rappelle, le plus rapide sur les trois séances d'essais libres et le plus rapide des trois Q1, Q2, Q3.
Mais en fait, Sébastien Vettel a finalement fini par tenir son rang en Q3 parce qu'il était un peu plus absent en Q1 et en Q2. Et par contre, en Q3, il a réussi à faire un chrono à 2 dixièmes et demi de Lewis Hamilton qui correspond un peu plus à son niveau de performance, en tout cas à ce qu'il doit faire s'il veut rester dans la course au titre. Et ça va être très compliqué aujourd'hui pour aller devancer Lewis Hamilton.
Alors, avant évidemment de s'intéresser plus aux faits, on va rentrer dans le détail avec malheureusement encore des pénalités qui ont frappé de nombreux pilotes. On revient sur la trajectoire de Lewis Hamilton. On peut dire que jusque-là, alors qu'il reste 4 Grands Prix à disputer, avec donc 11 pole positions, ça c'est déjà acté pour cette saison, 72 pole positions au départ, il a enfoncé toutes les barrières. On l'évoquait dans les grandes gueules, je ne sais pas si tu as écouté tout à l'heure, mais c'est déjà une légende du sport automobile et il est en route vers son 4e titre. Je crois que même si on le vit actuellement, et ça n'est pas fait, il faut se prendre un tout petit peu de recul et se dire qu'on a vraiment affaire à un monument du sport automobile.
Mais clairement, c'est un des pilotes qui fait partie de l'histoire du sport automobile. On parle de Senna, on parle de Michael Schumacher, on doit parler de Lewis Hamilton, on doit aussi parler de Sébastien Vettel parce qu'il a aussi beaucoup de titres et qu'il a bien dominé.
Quatre de rang.
Avec une écurie qui n'était pas qui était constructeur pas de voiture mais de boisson.
donc ça, de boisson énergétique.
faut le souligner aussi, il a réussi à faire de grandes choses, Sébastien Vettel. Par contre, pour Lewis Hamilton, c'est vrai que cette année surtout, il a pris une dimension extraordinaire, un peu libéré du poids qu'il avait avec Nico Rosberg. On connaît le passé qu'il a eu et la rivalité exacerbée qu'il y avait avec le pilote allemand. Cette année, il est en maîtrise totale et depuis que la Mercedes et que son équipe a trouvé les réponses aux problèmes qu'ils avaient, notamment avec les pneumatiques, il est imbattable. Et chez Ferrari, on s'est un peu pris les pieds dans le tapis.
Dans le tapis, c'est vrai, depuis la rentrée, depuis la reprise, après le dernier Grand Prix remporté par Sébastien Vettel avec la Ferrari jusqu'en Hongrie. Là, on avait vraiment, on peut scinder le championnat déjà en deux parties. Il y a eu la première grosse moitié jusqu'au break du mois d'août où il y a eu ce baston, un coup à toi, un coup à moi. Et c'était formidable, comme on le dit, parce que deux pilotes qui s'affrontent, tu viens de l'évoquer, au sein de la même équipe. Oui, c'est toujours passionnant, mais bon, et on se dit toujours, est-ce qu'il n'y a pas des arrangements entre équipes? Là, c'est pas le cas. On a tout donné chez Mercedes, tu l'évoquais, pour compenser ce handicap peut-être de rendement pneumatique, et on a plus que tout donné chez Ferrari pour maintenir Vettel. Seulement voilà, est-ce qu'on n'était pas un peu essoufflé? Et puis, il faut le dire, il y a de la malchance et quelques erreurs humaines aussi. Hein. C'est pas offenser qui que ce soit et pas Vettel que de le dire.
Oui, peut-être un peu à un moment donné en sur-régime chez Ferrari qui démarrait peut-être avec sur certains circuits un déficit. Un léger déficit de performance, en tout cas bien moindre que l'année dernière, mais ils ont tout fait hein, chez Ferrari avec ouais. Sébastien Vettel, avec Kimi Raikkonen qui l'a bien aidé aujourd'hui. Le premier petit faux pas, ça a été Azerbaïdjan où Vettel a fait une petite boulette et puis
psychologiquement peut-être une grosse
peut-être une grosse effectivement et puis ensuite il y a eu des soucis mécaniques au mauvais moment et puis ce fameux départ de 5 Singapour où il devait aller s'imposer sur ce circuit-là. Il était assez performant et la Ferrari l'était. Donc voilà, après c'est une spirale négative et de l'autre côté, bah ça rend plus fort encore Lewis Hamilton et à l'inverse, lui il est dans une spirale très très positive.
C'est clair. Alors Louis Amar l'a rencontré bien sûr Lewis Hamilton pour lui poser la question concernant le titre. Comme tu es pilote, tu sais ce qu'il a répondu déjà probablement, mais on va écouter la réponse de Lewis Hamilton au micro de Louis Amar.
Je suis ici pour gagner la course. Je me moque de savoir si je suis champion ici, peu importe tant que je le suis en fin de saison, parce que c'est ça mon objectif. On parle beaucoup d'un titre ce week-end, mais je pense que c'est n'importe quoi, que c'est très improbable, donc je dois chasser ça de mon esprit. J'ai encore des points à gagner, et si je ne les prends pas, tout peut s'inverser rapidement, donc je dois maintenir ma forme des dernières courses et rester toujours à 100%. My goal is to continue to
100%. Voilà, pour écouter Lewis Hamilton qui effectivement, bah, n'a qu'un discours, hein. De toute façon, c'est vrai que le titre, c'est pas un mot tabou, mais quand on est pilote et qu'on se bat pour ça, on va pas en parler tant que c'est pas fait mathématiquement, même s'il a un gros avantage, on le répète, 59 points avant le départ de ce Grand Prix des États-Unis. Et puis on rappelle que s'il porte ce total à 75 d'écart par rapport à Vettel, là, il pourra en parler probablement.
Bon, il va devoir gagner, en tout cas, prendre 16 points de plus que Sebastian Vettel ce week-end, ça va pas être facile, en tout cas, c'est pas entre ses mains, c'est plutôt Vettel qui se doit lui d'aller chercher cette victoire s'il veut avoir une espérance à un moment donné de gagner ce championnat, mais ça sera très très compliqué. Tant que mathématiquement ça n'est pas fait, ça reste du sport automobile et Lewis Hamilton le sait. Je pense qu'il a pas de raison de changer son attitude, le pilote britannique, et ça fait un moment qu'il est dans cette spirale très positive et il va pas changer d'attitude.
Absolument. 1 minute 33 secondes et 108 millièmes, c'est le temps qu'il a fallu à Lewis Hamilton pour signer cette pole position, reléguant Sébastien Vettel qui a d'ailleurs dans un deuxième sursaut, hein, on l'a vu dans la deuxième tentative, qui est revenu à 239 millièmes. On peut dire il a changé de châssis, on le rappelle, hein, Vettel, parce qu'il sentait pas le premier, il était sorti de la piste, il savait pas trop pourquoi. C'est plus psychologique à ton avis ce changement de châssis, ou alors on a dû réhomologuer la machine, hein, chez Ferrari, ou en tout cas il se sent mieux, il est un poil plus proche de Lewis qu'il ne l'était précédemment.
Bah si je peux rapprocher ça à mes expériences passées à moi.
Mais c'est bien ce que je te demande.
C'est plutôt mauvais signe, parce que quand on change de châssis, c'est que vraiment
on sentait pas bien avec l'autre.
Non, c'est que vraiment on a regardé partout ailleurs. On a changé tout ce qu'il fallait changer et on trouve pas les solutions pour aller plus vite. Alors un jour on a une vibration sur le train avant, on se dit peut-être que le châssis il a un problème de rigidité, peut-être que on a tapé à un moment donné dans une course, on a pris un vibreur et qu'il fonctionne plus comme il devrait, mais quelque part c'est vraiment la dernière chance, et là le fait que Vettel soit à 2 dixièmes et demi seulement, je pense que c'est pas vraiment Lewis Hamilton n'a pas fait sa deuxième tentative complètement, il l'a abrégé.
Quand il a vu que c'était bon, il a pas été au bout.
Effectivement, je pense que Lewis Hamilton en avait encore sous le pied, on l'a vu améliorer dans le premier secteur, là où il a été moins vite que la concurrence, il était intouchable Lewis Hamilton hier.
On va l'écouter justement Lewis Hamilton au micro de Louis Amar, bien sûr, parler de cette pole. Encore une fois, il faut 11e pole sur 17 Grands Prix, ça vous donne la nomination, et 72e de sa carrière de pilote de Formule 1, évidemment, il est au sommet, il est au pinacle, il a enfoncé Michael Schumacher et Ayrton Senna. On l'écoute au micro de Louis Amar.
Chaque pole est importante, parce que quand on n'y est pas, on ne peut pas maîtriser le début de la course, c'est beaucoup plus compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de gagner, mais c'est plus dur. Maintenant, j'ai encore beaucoup de travail pour y arriver. D'abord réussir un bon départ, maintenir Vettel derrière, puis creuser un écart. Depuis le début de saison, les Ferrari sont rapides en course, donc on verra.
Et ben voilà, c'est la question que j'allais te poser, Adrien, parce qu'effectivement, le petit espoir qu'on a, encore une fois, on n'est pas, je le redis à chaque fois, on n'est pas contre Lewis Hamilton, il mérite son titre, on l'a déjà dit, en tout cas jusqu'ici, et on voit pas pourquoi il le mériterait pas au terme de la saison. Mais on espère maintenir le suspense, et donc pour maintenir le suspense, il faut que Vettel soit capable. Alors, on n'a pas eu, en tout cas dans mon souvenir, le vrai duel entre les deux hommes qui se battent pendant toute la course, ou une bonne partie de la course. Est-ce qu'on va la voir là? Est-ce que Vettel, qui part en première ligne aux côtés de Lewis Hamilton, on rappelle que Lewis part à droite, c'est la trajectoire qui est balayée, on rappelle qu'il y a un véritable mur qu'il faut grimper avant le petit gauche, et donc Vettel partira à gauche, la partie la plus sale, mais bien placée pour le gauche.
Ça dépendra du départ, et on sait que Vettel d'ailleurs avait eu des petits soucis à ce niveau-là il y a il y a quelques courses de cela, mais comme tu le dis, le premier virage est un peu spécial, il est très très large et il se referme beaucoup.
Plusieurs trajectoires.
Exactement, plusieurs trajectoires, et on peut, même en étant un peu loin, aller faire un espèce de block pass, c'est-à-dire gagner de la distance en tirant droit vers l'intérieur. Donc Vettel va à un moment donné devoir prendre un risque, parce que lui il n'a rien à perdre. Bon, s'il fait un faux pas, c'est mort. Ouais. Mais quelque part, s'il va pas gagner cette course, ouais, c'est mort aussi. Donc il va devoir prendre déjà un bon départ et puis ensuite un minimum de risque. S'il laisse Lewis Hamilton en tête, malgré le fait de, voilà, peut-être que la Ferrari est un peu mieux en course qu'en qualif, mais comme
toujours, traditionnellement.
Traditionnellement, mais je pense que maintenant Mercedes a fait des progrès, et sur cette fin de saison, elle est quand même très performante.
Et puis on rappelle qu'il fait très chaud, il faisait très chaud, plus de 30 degrés, 31, 32 degrés, plus de 40, 45 sur la piste. Ça, on va dire que ça irait plutôt dans le sens de la Ferrari, normalement.
Ouais, plutôt dans le sens de la Ferrari, mais encore une fois, c'est un circuit qui est complet, où il y a beaucoup de virages rapides, où on sait que la Mercedes est performante. Alors il y a plus de virages techniques qu'à Spa-Francorchamps, par exemple, mais c'est un circuit qui convient quand même bien à la Mercedes. Donc je dirais que la température et les caractéristiques du circuit jouent un peu pour les deux écuries. Ça va être en course, ça va être très proche, je pense, au niveau des performances.
Eh ben, ce serait génial si on peut avoir un coup à toi, un coup à moi. On va écouter en tout cas ce que Sébastien Vettel a dit à Louis Hamar de cette performance en qualification. On le rappelle, il est deuxième, il est sur la première ligne de la grille de départ, aux côtés de Lewis Hamilton. Sébastien Vettel.
J'aurais aimé être de l'autre côté de cette première ligne, mais Hamilton était trop rapide sur un tour aujourd'hui, donc je pense que c'est le meilleur résultat que je pouvais espérer. On est même un peu plus près que ce qu'on pensait. Pour la course, ça sera une autre histoire, on a un coup à jouer, il faudra bien analyser les conditions météo, les nuages, la chaleur, le vent, tout cela sera important dans le premier relais pour décider ensuite combien de fois on devra s'arrêter.
Eh oui, il y a les histoires de stratégie, évidemment. Hein. On sait que devant, on va partir avec les ultra soft, qui sont d'ailleurs à flanc rose, pour soutenir une association donc qui se bat contre le cancer du sein, je crois. Donc c'est particulier, mais ça reste les mathématiques, les plus tendres de la gamme Pirelli. Donc entre, on va dire, les 10 premiers de la grille, il ne devrait pas y avoir de stratégie extrêmement différente. On va voir jusqu'où on peut aller. On rappelle qu'il y a 56 tours à parcourir. Elle est longue, cette course.
Oui, je crois que le seul à s'être un peu décalé, c'est Max Verstappen, de mémoire, puisqu'il avait il écopait d'une pénalité après la qualification.
C'est ça, il partira 17e.
Voilà, il partira 17e. Donc lui va pouvoir partir avec des pneumatiques soft et du coup se décaler en stratégie, puisqu'il va être englué dans le trafic. Donc il va falloir trouver un moyen de dépasser tous les petits camarades devant s'il veut aller marquer des gros points. Mais pour les autres, c'est une stratégie, à mon avis, classique. Maintenant, il va falloir comprendre combien d'arrêts chacun va devoir faire, si le pneumatique ultra tendre va résister à la chaleur. Mais a priori, il résistait plutôt bien en essai libre.
Alors, ça, c'est la première ligne. On en a beaucoup parlé parce que c'est quand même l'enjeu majeur, évidemment, de ce Grand Prix. Hamilton, Vettel, Vettel, Hamilton. On espère, encore une fois, un très beau duel. Ce sera à 21h ce soir et vous le vivrez grâce aux points sur la course qui seront faits avec Louis Hamar. Vous savez qu'il y a le match OM-PSG, évidemment, qui est au même moment. Valtteri Bottas, troisième tour. On en dit un petit mot quand même avant d'écouter le quatrième. Valtteri Bottas avec sa Mercedes, bon, relégué 460 millième, c'est une demi-seconde, pas loin de... Une nouvelle fois, on mesure le talent d'Hamilton, parce qu'a priori, ils ont vraiment, vraiment la même monoplace avec Bottas.
Ouais, et ça fait un moment que Valtteri n'arrive plus à faire jeu égal avec Lewis Hamilton. Alors, bizarrement, c'était plus le cas au début de la saison, alors qu'il était en phase d'apprentissage dans cette équipe.
Mais dernière pole en Autriche, il en a fait deux.
Peut-être qu'il est rentré un peu plus dans un rôle de deuxième pilote et qu'il a un peu moins la hargne qu'avant, ou alors il y a des choses qu'on maîtrise pas, et peut-être que tout le développement est maintenant du côté de Lewis Hamilton chez Mercedes, mais je pense qu'on a les moyens quand même chez Mercedes d'avoir deux voitures identiques.
Allez, on va passer au quatrième, donc sur la deuxième ligne de la grille de départ. C'est un pilote Red Bull Renault. Il s'agit de l'Australien Daniel Ricciardo. On l'écoute au micro de Louis Hamar.
I was really happy to be on the second row.
J'étais très content d'être en deuxième ligne, mais quand mon ingénieur m'a dit que j'avais fini tout près de Bottas, j'étais quand même un peu déçu. Ça s'est joué à peu de choses, mais globalement, je suis satisfait des améliorations qu'on a apportées. En essai libre 3, c'était compliqué. Au début de la qualif aussi, et on ne savait pas vraiment pourquoi. Alors, on a changé l'aileron avant et ça m'a bien aidé. Donc, j'ai fait un peu mieux en Q2, puis en Q3, où j'ai finalement réussi un bon tour.
Et voilà, parce que il faut préciser qu'il avait devancé Verstappen hein, à la régulière. Le quatrième temps, il le mérite. Verstappen a été pénalisé, mais il est à 469 millièmes, c'est-à-dire à 9 millièmes de Bottas. Plutôt pas mal. Hein,
oui, je crois qu'il a fait le même temps exactement que Kimi Raikkonen, ou je me trompe, mais en tout cas, il le devance.
Tu as raison.
Ouais, il le devance, Daniel Ricciardo. C'est important d'arriver à devancer une Ferrari, et je pense qu'on le connaît, hein, en course très solide et très constant, donc il va essayer d'aller monter sur ce podium.
Allez, on va marquer une petite pause dans cette belle émission Motors. On vous parle de F1, on va vous en reparler tout à l'heure, mais tout de suite, c'est le président Pierre Fillon, le président de la CO, que nous allons avoir en ligne directement. C'est l'invité de Motors. Vous restez avec nous.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC jusqu'à 14h. Motors, Jean-Luc Roy.
Et oui, c'est toujours un plaisir de vous accueillir tous les dimanches entre 13h et 14h pour parler de sport mécanique après la Formule 1. Et je vous l'ai dit, on y reviendra tout à l'heure dans une dizaine de minutes. On va parler maintenant du WEC, le championnat du monde d'endurance. Et on va en parler avec le président de l'Automobile Club de l'Ouest, Pierre Fillon, qui nous fait le plaisir d'être en direct avec nous. Bonjour Pierre.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je sais que vous êtes très occupé puisque vous êtes présent au Portugal pour la dernière manche de l'ELMS, hein, l'European Le Mans Series. On peut en dire un mot d'ailleurs de cette série, par définition européenne et pan-européenne, qui permet aux équipes et aux pilotes en quelque sorte de s'éprouver, hein, avant d'accéder au championnat du monde.
Oui, c'est le championnat continental où on retrouve les LMP2, les LMP3 et les GTE. C'est la marche avant le WEC et avant le Mans. Et on a la dernière course de la saison, là, dont le départ va être donné dans un peu moins d'une demi-heure avec des titres qui vont se jouer aujourd'hui.
Ah, voilà. Alors, j'ai promis d'être court, hein, de vous lâcher dans 7 minutes environ puisque vous allez être présent sur la pré-grille de cette épreuve. Alors, président, plusieurs questions, évidemment, beaucoup de questions se posent, et je dois dire, j'ai lu avec beaucoup d'attention l'interview que vous avez accordée à nos confrères d'Auto Hebdo, qui est très intéressante. On va prendre les problèmes de manière synthétique et un par un. Commençons par le LMP1, c'est-à-dire la catégorie reine, entre guillemets, de l'endurance. On sait que le règlement était un règlement qui permettait justement de mettre en avant l'hybride avec plusieurs systèmes d'hybridation, avec des voitures au rendement, je dis bien, absolument formidable. Et puis voilà, on avait trois constructeurs fantastiques, Audi depuis longtemps, Porsche qui était venu, Toyota. Malheureusement, deux d'entre eux sont partis. Est-ce qu'on peut dire que c'est à cause des coûts, président, et uniquement à cause des coûts?
Non, je crois pas qu'on puisse dire que c'est uniquement à cause des coûts. Je pense que Audi et Porsche font partie du groupe Volkswagen et on sait que le groupe Volkswagen a d'autres soucis. Après, c'est vrai que la compétition était extrêmement élevée et que entre Audi, Porsche et Toyota, vous savez, plus la compétition est élevée, plus les coûts s'envolent. Alors aujourd'hui, on était arrivé à probablement le fait que les coûts en LMP1 faisaient peur à d'autres constructeurs. Et donc c'est pour ça que, vous le savez, aujourd'hui on travaille sur un nouveau règlement.
Voilà.
Je crois qu'on a connu une époque formidable avec une technologie extraordinaire. On a économisé plus de 50% de consommation d'essence en quelques années. Donc c'était formidable. Et voilà, une page se tourne. La course automobile, c'est souvent des cycles.
Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais oser vous poser la question. Est-ce que finalement, et je sais que de nombreux progrès pour l'automobile de tous les jours sont venus du Mans, hein, je le rappelle très fréquemment sur cette antenne, les phares à iode, les freins à disque à l'époque, enfin, tout un tas, le travail sur l'aérodynamique, etc. Et vous venez de le souligner, bien sûr, l'économie de carburant. Mais est-ce que c'est vraiment l'objet? Est-ce que finalement, c'est une compétition sportive? Et est-ce que pour faire venir, bon, vous parliez de constructeurs, Peugeot, malheureusement pour le WEC, a annoncé qu'il ne viendrait pas. Est-ce que vous savez déjà si Toyota reste et si Toyota est prêt à entrouvrir le règlement pour que l'on puisse avoir des machines, on va dire, moins complexes et moins sophistiquées qui puissent lutter avec les machines hybrides?
Alors Toyota, si Toyota reste, il faudra leur poser la question. Je crois que la réponse
est... Je le ferai. Oui.
Mais effectivement, je crois qu'il y avait deux périodes. Il y a les deux prochaines saisons où on sait qu'aucun constructeur n'est capable de construire une nouvelle voiture hybride en si peu de temps.
Bien sûr.
Il fallait donner des compétiteurs à Toyota. Toyota ne va pas se battre tout seul pour le titre ou les 24 heures du Mans. Et donc, on a modifié le règlement LMP1 non hybride pour permettre au LMP1 non hybride d'avoir le même potentiel de performance que Toyota pour les deux prochaines saisons, avec Toyota qui gardera bien sûr un avantage en termes de consommation, puisque c'est quand même l'intérêt de l'hybride. Donc ça, c'est quelque chose...
Ça, c'est acté. Enfin, je veux dire, ça...
C'est acté, voilà. Et puis après, il y a effectivement le futur règlement à partir de 2020, où on s'oriente vers, finalement, un cahier des charges avec trois conditions. La réduction des coûts, une réduction des coûts de plus de la moitié de des dépenses qui étaient faites aujourd'hui. Le deuxième, c'est de garder de la technologie, donc de garder de l'hybride, puisque l'hybride, c'est quand même ce qui va équiper toutes nos voitures là dans les 10 ans, les prochaines années, puisque l'électrique, le tout électrique, c'est aussi l'hybride plug-in, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais l'hybride, c'est d'électrique. Et puis la troisième condition, c'est que les carrosseries des futurs LMP1 évoqueront, tous les fans pourront reconnaître la marque.
Voilà, c'est ce que vous avez annoncé. Et on se rappelle que c'était le cas à la fin des années 90, notamment. On avait des prototypes, mais qui ressemblaient quand même, qui s'identifiaient immédiatement. Il faut bien reconnaître aujourd'hui, surtout quand elles sont peintes de la même couleur, qu'entre une Porsche et une Toyota, on a un peu de mal, président, honnêtement.
On est bien d'accord. C'était même la couleur était effectivement... C'était très dommageable pour nos fans.
Eh oui. Alors, on parle des 24 heures du Mans, évidemment, qui est l'épreuve phare. C'est vrai que aussi, et c'est normal que ça entraîne des coups, c'est un championnat du monde. Donc, il y a des épreuves sur tous les continents, ou presque. Je crois que vous pensez réduire également un tout petit peu le nombre d'épreuves à 8, si j'ai bien compris, avec un calendrier également qui va être décalé pour arriver à l'apothéose au Mans. C'est bien ça?
Voilà, on a voulu profiter de ce changement, enfin de l'arrêt de Porsche, pour faire passer un certain nombre d'idées qu'on avait, et qui étaient notamment de faire en sorte que le championnat du monde ne comporte pas finalement la course phare au milieu de la saison, on termine pour un montagnard, c'est de finir par l'Everest, c'est pas de finir par un sommet plus bas. Et donc l'idée est effectivement de terminer la saison WEC au Mans. Le Mans va rester en juin parce qu'on ne se voit pas faire le Mans au mois de décembre. Et donc on va inverser la saison, on va faire un petit peu comme le football finalement. C'est une saison qui débutera en septembre et qui se terminera en apothéose par la plus belle course de l'année. Alors il y aura une saison, une super saison, parce qu'il fallait
une transition,
faire un switch entre les deux. Et donc la saison 2018-2019, elle commencera au mois de mai à Spa, et elle se terminera en juin 2019, et elle comportera deux fois les 24 heures, avec une course en moins sur les courses, pas sprint, mais les courses de 6 heures, de façon à diminuer les coûts, parce qu'il faut penser au LMP1, mais il faut aussi penser aux autres catégories, où là il faut aider les teams à ne pas dépenser trop.
Alors, comme le temps file, président, et que je dois vous lâcher normalement dans une minute, allez, vous allez m'en accorder une ou deux de plus, parce que j'ai d'autres questions à vous poser, très vite. Alors, la première, c'est, est-ce que vous savez si Toyota reste vraiment, ils vous l'ont dit, ils vous l'ont confirmé maintenant? Parce que, évidemment, le Graal, pour eux, c'est le Mans, ils n'ont jamais remporté les 24 heures du Mans.
C'est vraiment, il faut que vous leur posiez la question.
D'accord, ben je vais le faire. Je vous promets de le faire. Ok. Deuxième question. À propos justement du LMP2, vous l'avez évoqué, qui est la petite catégorie, on va dire, celle qui est réservée aux teams privés. Vous y tenez, pas d'usine dans cette catégorie-là, même si on a bien compris que certaines équipes, allez, je vais pas dire que c'est des usines déguisées, mais bon, quand on a Alpine, et tant mieux, c'est une marque française, c'est formidable, mais c'est quand même Alpine officiellement qui est présent. Au niveau de cette réglementation-là, où vous avez injecté beaucoup de performances cette année, président, comment va-t-elle cohabiter justement avec la nouvelle LMP1 plus performante? Est-ce que là aussi vous avez de ce côté-là des budgets qui sont limités? Vous avez un gap concernant un cost cap, voilà, je vais y arriver.
Alors effectivement, le LMP2, c'est une catégorie réservée pour en partie les gentleman drivers et les teams privés. Il faut que ce soit une catégorie qui soit abordable pour ces équipes. Et donc aujourd'hui, la voiture est cost capée, c'est-à-dire que le prix est un prix maximum pour la vendre. Pour cela, on a retenu quatre constructeurs pour que chacun ait un marché, etc. Et toutes ces voitures ont le même moteur et les mêmes potentiels de performance pour que chacun puisse se battre pour la victoire. Après, c'est vrai que la LMP2 de l'année dernière avait des performances un peu limites par rapport à nos GTE, et donc on leur a redonné de la puissance pour pouvoir pour que le gap soit plus important avec le GTE. Aujourd'hui, on sait que le gap entre le LMP2 et le LMP1 est d'environ 7 secondes sur un tour au Mans, et donc ce gap restera puisque les futurs LMP1 non hybrides vont rouler à peu près dans les mêmes fenêtre de performance que la Toyota.
D'accord. Dernière question, président. Je savais que ça passerait vite. Hein. 10 minutes, c'est pas tout à fait assez, mais je vais vous laisser regagner la grille de départ de cette épreuve LMS. Ça concerne les GT, parce qu'il faut le dire, et là, ça marche très bien. Je crois qu'il y a BMW qui arrive, donc il y aura 5 ou 6 constructeurs d'usines dans cette catégorie GT qui est très spectaculaire.
Effectivement, très belle catégorie donc GTE Pro, avec aujourd'hui Porsche, Ferrari, Aston Martin et Ford, et BMW qui arrive avec une très très belle voiture à partir de la saison prochaine. Donc 5 constructeurs, peut-être un peu plus au Mans, et un titre de champion du monde, puisque maintenant il y a un titre de champion du monde GTE. Donc l'endurance se porte bien, il ne faut pas...
Bien sûr.
De Porsche, effectivement, mais il reste. Je pense qu'on aura, il y a de très beaux projets en LMP1 privé, enfin non hybride l'année prochaine. Donc je pense qu'on aura plus de LMP1 que cette année, puisqu'on n'avait que Porsche et Audi cette année, plus Collège. Là, il y a d'autres projets que vous connaissez. Et puis, oui. En LMP2, on avait l'année dernière 25 voitures au Mans. C'était un record absolu. Et on aura encore là de très, très belles bagarres. Et puis, bien sûr, cette bagarre en GTE Pro avec le titre de champion du monde entre ces magnifiques constructeurs.
Parfait. Merci beaucoup, président Pierre Fillon, président de la CEO. On va vous laisser gagner la grille de départ de cette épreuve ELMS au Portugal. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne course. Pierre.
Merci à vous. Bonne journée à tous.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Et voilà, le tour de chauffe après l'invité de Motors qui était donc le président Pierre Fillon. On revient à la Formule 1 avec toi, Adrien. Bien sûr, tu as écouté tout ça avec beaucoup d'attention, puisque quand on est pilote de sport automobile, on s'intéresse à
Il y aurait eu d'autres questions, mais bon, il fallait qu'il aille sur la grille.
Et c'est pour ça qu'on avait promis de le lâcher. Hein, donc, de le lâcher à l'heure, on l'a presque fait à 2 minutes près. Allez, on en revient sans transition, comme on dit habituellement dans les journaux télévisés. On en revient à la suite de la grille. Alors, on a écouté Daniel Ricciardo il y a un instant. Je voudrais quand même y revenir pour deux raisons. La première, donc, on l'a dit, il a devancé Verstappen en qualif, ce qui n'est pas si courant, parce que jusque-là, Verstappen était très véloce, et malheureusement, Verstappen qui écope de 15 places de pénalité.
Oui, pour Verstappen, ça va être une course contre la montre, cette course. Il va être sur une stratégie un peu différente, un peu décalée par rapport à tout le reste du plateau. Il va pouvoir s'élancer avec des pneumatiques super soft, et donc se décaler en stratégie avec ses arrêts au stand, éventuellement. C'est un circuit où on dépasse quand même assez facilement, en tout cas plus facilement que sur certains autres, avec deux zones de DRS, une très très longue ligne droite et toute une partie technique où on arrive à suivre le pilote qui nous précède, donc un peu plus facile pour lui. En ce qui concerne Daniel Ricciardo, une très bonne qualif, et comme on le disait juste avant, il est solide et constant en course, et je pense que pour lui, à nouveau, l'objectif sera le podium.
L'objectif, bien sûr, plus que jamais, sera le podium. Et tu parlais de temps, effectivement. 1:33,577, c'est pile au millième près le temps réalisé par Kimi Raikkonen. Voilà qui nous rappelle, t'étais pas né ou presque si tu étais né, les trois pilotes à égalité de millième, tu te rappelles la pole du Grand Prix de Jerez de la Frontera, fin de saison 97, le titre de Jacques Villeneuve avec Frentzen et Schumacher, les trois dans le même millième. Bon, je crois qu'il faut effectivement, on va pas dire le doigt de Dieu, mais pour arriver à un tel résultat. En tout cas, derrière, on déroule. Derrière Verstappen, on vient de l'évoquer, sixième. Ben, il y a un Français, Esteban Ocon, qui confirme son très haut niveau de performance, d'autant qu'il devance son équipier Perez.
Oui, d'autant qu'il était apparemment très malade hier pendant la qualification. Au bord de du vomissement apparemment, Esteban Ocon, et il a réussi à faire une très très bonne qualif et à devancer sur un circuit complet et où la valeur du pilote est soulignée, à devancer Sergio Perez. Donc une fois de plus, il tient son rang, mais maintenant ce n'est plus une surprise.
Ah oui, et puis bien en plus. Hein. 1:34,647 pour Esteban Ocon, septième temps en fait sur le terrain. Et puis Sergio Perez, 1:35,148.
Il y a une erreur pour Sergio Perez.
Certainement.
Il a fait une erreur dans son premier run. Et d'habitude, on le voit revenir dans le deuxième. On le voit sortir du bois à chaque fois, nous claquer un chrono. Mais cette fois-ci, n'a pas réussi. Donc effectivement, il était un peu en deçà des performances habituelles.
On va l'écouter, Esteban Ocon, confirmer au micro de Louis Hamar ce dont tu parlais, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans une grande forme physiquement pendant ses qualifications.
Je suis pas très très bien, je suis un peu malade, je sais pas ce que j'ai depuis le début de la séance, j'ai un gros mal au crâne et du coup j'ai pris des cachets pendant la séance et du coup ça m'a un peu retourné l'estomac, donc du coup je suis pas très très bien là, mais voilà, super résultat quand même, on a fait ce qu'il fallait et voilà, j'espère récupérer demain pour être en pleine forme. Pour la course, on a un bon rythme global, donc mieux qu'en qualif normalement, donc voilà, on devrait être voilà comme il faut, comme les dernières courses et bien quatrième.
Et oui, puis on l'a vu avec la tête bien faite, bien pleine et froide surtout. On se rappelle de ce début tonitruant, notamment au Grand Prix du Japon, où effectivement il se retrouve en troisième position. Et puis après, bon, il peut pas résister au retour de la cavalerie lourde derrière lui. Mais là, a priori, quand on voit la grille, il aura Carlos Sainz. On va en parler à ses côtés. Non seulement il peut résister, mais c'est peut-être lui qui peut attaquer ceux qui sont devant.
Oui. En tout cas, il le dit. Hein, sa voiture est performante sur un circuit comme le Texas à Austin. C'est il fait toujours des courses solides, il est toujours constant, il arrive à sortir, à pas se mettre dans les incidents et il a une bonne vista. Esteban, en plus de ça, comme tu le disais, il a la tête froide, donc il y a pas de raison.
Là, il y a pas de raison et on y croit et il le chasse ce podium. Alors est-ce que ce sera là? Il faudra quand même que ça dégage un peu.
Il y a quelque chose à souligner aussi. C'est qu'il a posté sur les réseaux sociaux une photo avec son équipier où il le remercie quelque part parce que c'était une photo de lui et Sergio Pérez avec la main de Sergio Pérez sur l'épaule d'Esteban Ocon à la fin de la qualif. Alors est-ce que l'épée, la hache de guerre serait enterrée depuis les nombreux incidents qu'il y a eu? On sait que les deux ont été
C'était avant le break, hein, tout ça on le rappelle quand même. Depuis le break ça s'est bien calmé même à Monza
et les deux ont re-signé avec Force India, et j'ai l'impression quand même que, parce qu'on sait qu'au début de la saison il y avait une entente cordiale, vraiment ils s'entendaient bien et c'était sincère. Donc c'était un peu dommage que tout ça
ait dégénéré.
Voilà, ait dégénéré et maintenant a priori c'est redevenu à peu près normal.
Et ben c'est tant mieux, c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait une rivalité sportive, ça on n'en doute pas un instant, voilà, mais saine et que on se batte mais sur la piste et sans bon, on va pas revenir là-dessus parce que c'était l'Azerbaïdjan aussi qui a décidément été un grand prix, hein, puisqu'on l'évoquait pour Vettel et Hamilton tout à l'heure. Alors, un mot ou plus si tu veux sur Carlos Sainz qui débarque chez Renault à 4 grands prix de la fin de la saison et qui, ma foi, s'intègre magnifiquement parce que on peut dire d'ores et déjà qu'il est du niveau de Hülkenberg. Lui aussi, frappé par des pénalités, il partira 19e avec 20 places dans le sac. Donc, ça commence bien.
Oui, alors pour Carlos Sainz, pour moi, c'est pas une surprise parce que tout simplement, c'est un pilote qui a toujours été très performant dans toutes les catégories qu'il a fait jusqu'à présent et qui a quand même dominé son coéquipier Kvyat, qui n'est pas non plus dernier.
Le dernier des
pilotes et qui, on le rappelle, était chez Red Bull il y a pas si longtemps. En tant que ça, il l'a dominé cette saison. Il commence à avoir une bonne expérience de la Formule 1, mine de rien, et c'est le bon choix pour Renault. Et c'est très bien d'avoir comme ça maintenant deux pilotes qui sont vraiment homogènes
et qui vont se pousser en
termes de performance. Et je pense que c'est deux pilotes aussi qui vont arriver à s'entendre. Ils sont tous les deux très intelligents et il va y avoir une saine émulation dans l'équipe.
Il y a du talent et de la testostérone là sur cette quatrième ligne avec Esteban Ocon et Carlos Sainz. Et puis juste derrière sur la cinquième ligne. Alors là, il y a du métier. Il y a du talent, mais il y a du métier. C'est un certain Fernando Alonso qui, justement, on va l'écouter tout de suite au micro de Louis Hamar, a reconduit, avait-il d'autres solutions, son contrat avec l'équipe McLaren, qui sera l'équipe McLaren Renault l'an prochain. On écoute déjà ce qu'il a déclaré à Louis Hamar. Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1, faut-il le rappeler, en 2005 et 2006.
Durant l'été, j'ai eu des contacts avec différentes équipes, mais au fond de moi, j'ai toujours été convaincu que c'est McLaren qui était la mieux préparée pour se battre dès la saison prochaine pour le titre. Et puis j'ai attendu qu'ils trouvent un nouveau moteur, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à signer. J'ai dû discuter avec Renault pendant plusieurs semaines pour comprendre leur projet. Et maintenant, c'est clair pour moi, le projet McLaren-Renault peut être un projet gagnant l'an prochain, donc ça a été une décision facile à prendre.
Bon, ça c'est une bonne nouvelle. De toute façon, garder Fernando Alonso sur une grille de départ, c'est une bonne nouvelle, c'est un combattant solide, etc. À ses côtés, il aura Sergio Pérez, justement. Alors, on va parler maintenant de l'autre pilote français, puisqu'il n'y en a qu'un, Pierre Gasly, par parenthèse, on le rappelle, dans Motors, si vous ne l'avez pas entendu. Malheureusement, Adrien, on sait qu'il avait été gardé par Honda pour essayer d'être champion Super Formula au Japon. Les deux courses annulées, donc malheureusement, il est privé de dessert et privé de la course. Donc du coup, il a sacrifié, entre guillemets, enfin, on lui a demandé de sacrifier ce Grand Prix des États-Unis et il ne sera pas champion de Super Formula.
Oui, alors on peut voir ça comme un coup du sort, un fâcheux coup du sort, mais aussi peut-être de façon positive. En l'occurrence, peut-être que Toro Rosso l'a envoyé là-bas, sachant que bah, pour l'année prochaine, c'est fait pour Pierre. Je sais pas, mais
espérons-le.
Mais espérons-le, parce que dans tous les cas, ça serait une opportunité un peu gâchée pour lui. Et c'est rare comme ça de voir une course complètement annulée pour cause de météo. Normalement, on reporte au moins. Oui. Là, il s'agit de la finale, donc c'est un peu spécial. Ça aurait pu même se jouer en qualif, parce que s'il avait fait la pole position, Pierre, il est à un demi-point du vainqueur du championnat. Il aurait marqué un point, et voilà. Il aurait fini devant.
Et il
devant.
Pouvait être champion pour un demi-point. Allez, on va tout de suite aller sur l'incident qui a opposé, qui nous a fait peur, hein, vraiment en direct, là, quand on l'a commenté hier, les qualifs entre Romain Grosjean et surtout Lance Stroll, qui a changé de trajectoire. Écoutez ce qu'il a raconté au micro de Louis Amar.
Bah moi, j'étais dans un tour rapide, donc j'étais sur le vibreur extérieur. C'est un virage qui passe rapide à 240 km/h. Donc j'avais pas vraiment de marge de manœuvre au niveau de la voiture. Et quand j'ai vu qu'il bougeait pas de la trajectoire, de toute façon, j'arrivais pas à revenir à gauche parce que je risquais de partir en tête à queue et de taper le mur. Donc je suis parti à droite. Et à ce moment, je l'ai vu partir à droite aussi. Donc j'ai un peu serré les fesses et puis passé dans l'herbe. Et heureusement, la voiture est restée droite dans l'herbe. Sinon, ça aurait pu être tête à queue, mur et fin de qualification. J'ai rien de personnel contre Lance. Je trouve, on a un problème effectivement avec ces tours de sortie qui sont extrêmement lents par rapport aux tours rapides. Maintenant, tant qu'on aura ces Pirelli, on aura le problème.
Et oui, il reporte effectivement le problème sur les pneumatiques. Romain, en tout cas, on a eu chaud aux plumes et lui aussi. Hein. Vraiment, on a eu peur pour lui. Heureusement, tout s'est bien terminé. Il partira 12e sur la grille de départ en fonction des pénalités qui ont frappé, notamment, vous l'a dit, Van Dorn, Verstappen, Hülkenberg, Hartley. Voilà, c'est le dernier que je voulais vous faire écouter. Brendan Hartley, qui est le petit nouveau, qui est un Néo-Zélandais de 27 ans, qui a gagné Le Mans cette année, qui est pilote Porsche encore jusqu'à la fin de la saison. On l'écoute au micro de Louis Amar.
I would say yes, but I'm trying to tell myself no.
Je dirais oui, mais j'essaye de me mettre dans la tête que non, pour me retirer un peu de pression et profiter au maximum de ce week-end. Je garde les pieds sur terre et je me répète que c'est juste une course, que c'est juste une autre voiture que celle que je conduis habituellement. Je ne croyais plus avoir une telle opportunité. Bien sûr, le rêve était toujours là. De toute façon, c'est mon rêve depuis que j'ai 6 ans. Je le réalise maintenant et j'en suis le premier surpris. Vraiment, je ne pensais pas attendre 2017 pour faire mes débuts en F1.
Oui, c'est la belle surprise de fin de saison pour Brendan Hartley. Et toi, tu y croire, Adrien, qu'on pourrait peut-être retrouver même, non seulement jusqu'à la fin de la saison, et peut-être à la place de Gviat. Enfin, c'est un petit peu comme ça que tu le sentais hier.
Quelque part, je vois pas comment on peut traiter le pilote russe Daniil Kvyat comme ça. Quelque part, oui. c'est un peu difficile de l'appeler.
Il attend le rendez-vous avec Helmut Marko, ouais, d'ailleurs, avec un peu d'angoisse.
Je vois pas comment on pourrait continuer avec lui l'année prochaine, parce qu'après lui avoir fait ça, c'est un peu dur. Compliqué. Il y a une confiance qui doit quelque part être très altérée. Et en ce qui concerne Toro Rosso, c'est pas la première fois qu'il remplacerait les deux pilotes d'un coup. Ouais. Ça a été le cas la dernière fois. Ouais. Et voilà, ça aurait de la gueule quand même. Brendan Hartley, qui a pas mal d'expérience, même s'il est complètement rookie en Formule 1.
C'est un meilleur pilote qu'il ne l'était quand il était dans le giron Red Bull en 2010-2011.
Exactement. Il a fait une première fois peut-être un deuil de la Formule 1. Et ouais. Là, c'est une surprise pour lui, quelque part une inespérée, une seconde chance. Donc que du bonheur. Il a été capable de gagner des grandes courses comme les 24 heures du Mans, des grands championnats. Et je pense que c'est intelligent pour Toro Rosso de le mettre éventuellement avec le français Pierre Gasly.
Super. On referme la page F1 temporairement. Je vous rappelle que le Grand Prix ce soir, c'est sur AMC, c'est en direct.
Mais je reste parce que j'aime bien la moto.
Oui, ah ben tu restes parce qu'on va parler de moto, de MotoGP avec Benoît Boutron dans un instant. Et là, je peux vous dire, régalez-vous et asseyez-vous dans votre fauteuil. On va essayer de vous décrire ça. Il y a eu un baston, mais incroyable. C'est dans Motor, c'est sur AMC.
RMC jusqu'à 14h, Motors, Jean Lecroix.
Et oui, c'est la dernière ligne droite déjà de moteur, je vous la fais à chaque fois, mais c'est logique, on est sur un circuit, ou presque. On a eu le plaisir d'accueillir Benoît Boutron. Bonjour Benoît.
Salut à tous, salut Adri, salut Jean-Luc.
Adrien, reste évidemment avec nous pour parler de deux choses. D'abord de moto.
Eh oui.
Alors Benoît, j'ai envie de te dire, moi c'est un des plus beaux grands prix moto que j'ai vu. Je pèse mes mots et oui. Je peux dire que j'en ai vu depuis longtemps. Un baston comme celui-là. Eh oui. Ils ont été jusqu'à 7 ou 8 à se passer, se repasser. Et le tout avec un bon esprit. Il n'y a pas eu de saloperie, tu vois. Que je veux dire, surtout qu'à plus de 300, et puis un résultat extraordinaire avec un Français qui aurait pu être sur le podium.
Exactement, Adrien, on va l'avouer. En fait, Jean-Luc Croix préfère largement le MotoGP à la Formule 1. En fait, la Formule 1,
je le comprends
parce que c'est très très beau aussi.
Ouais, donc on va rappeler évidemment un Grand Prix d'Australie importantissime, puisqu'on avait la guerre
circuit
entre Dovizioso et Marquez pour le titre de champion du monde. Ce n'est pas encore acté, mais Marquez a frappé un grand coup. Victoire de l'Espagnol ce matin, une bagarre incroyable effectivement, notamment entre quatre pilotes. Marquez évidemment sur sa Honda et trois pilotes Yamaha, les deux pilotes officiels évidemment Valentino Rossi qui est de retour au plus haut niveau et ça aussi ça nous fait plaisir, et Maverick Viñales qui fait son premier podium depuis Silverstone.
Depuis longtemps hein.
Depuis oui. Silverstone, et il n'avait pas été sur le podium. Et quatrième, Johan Zarco. Zarco qui a été très bon en qualif hier. Il s'est placé troisième.
Qui a été deuxième même. Il était dans le façon.
Ouais. Il est incroyable.
Il a failli décrocher la deuxième place. Il aurait pu assurer un podium hein, peut-être dans cette course hein, puisqu'il était vraiment à la lutte dans les trois premières places.
Il a tout tenté pour essayer d'arracher la
deuxième
place.
Exactement. Ouais. Et il n'a aucun regret. On pourra vous lire tout à l'heure ses déclarations. Mais il a pris un plaisir énorme. Je vous en lis une rapidement.
Vas-y.
Ce sont des moments que je n'ai jamais encore vécu dans cette catégorie. Voilà, il vit son rêve pleinement, Johan Zarco. Pas du tout déçu par cette quatrième place parce qu'il a vécu une matinée fantastique.
Un souffle en plus.
Et tous les fans de moto se sont vraiment régalés ce matin sur ce Grand Prix d'Australie.
Ah, c'était un pied mais formidable et surtout qu'il termine à quelques centièmes les uns des autres. Il a été deuxième encore une fois, il a tenté le coup. Il n'y a pas eu trop de chute devant.
Non.
Donc ça a été, c'est un des plus beaux Grands Prix. Franchement, sur un circuit formidable, un circuit qui est bordé par l'océan. Enfin, c'est un décor fantastique. Et vraiment, puis, là, il n'y a pas de mots. Et puis, il y avait même les Suzuki, disons, dans le coup.
Exactement, les Suzuki étaient là pour ce matin et puis on le répète tout le temps, Jean-Luc. Et Adrien, pas l'arrêt au stand, c'est de la vraie bagarre le MotoGP. Mais c'est sûr, c'est vrai, il n'y a pas de.
Il n'y a pas de stratégie.
C'est
là.
Le meilleur pilote qui gagne.
T'envoies du lourd voilà. Et c'est tout.
C'est exactement ça. Donc Marquez s'est montré le plus fort, il n'a pas chuté, heureusement pour lui, et il frappe un grand coup au niveau du classement des pilotes. Mais on vous donne le classement de ce Grand Prix. Ouais. Donc Marquez qui s'impose devant Rossi et Viñales. Quatrième place pour Zarco. Cal Crutchlow termine cinquième. Sixième, Iannone donc avec sa Suzuki. Et la déception de la journée pour Dovi, Andrea Dovizioso.
Eh oui, j'allais te poser la question, où sont les Ducati?
13e, Dovizioso, il s'est complètement manqué en qualif. Il n'a pas pu faire mieux aujourd'hui, donc Dovizioso qui est très loin. Et il a quasiment fait une croix sur le championnat du monde, on ne va pas se mentir. Si Marquez assure
combien
sur
de points
les
33 points. 33 points,
ouais. 33 points d'écart désormais entre Marquez et Dovizioso, ça paraît très compliqué.
Grand prix d'écart,
Il y a 50 points à distribuer encore, puisqu'il n'y a plus que deux Grands Prix. Marquez est bien parti pour décrocher un quatrième titre mondial.
Ah oui, puis alors, c'est le plaisir de les voir même sur le podium après s'être arsouillés comme ça. Et avec des traces, ils avaient tous sur les combinaisons des traces de pneus.
Ouais.
C'est incroyable. Non mais, faut voir ça.
Non mais tu le disais, autre différence avec la Formule 1. Bon, parfois, il y a quelques pilotes qui sont fâchés les uns avec les autres. En MotoGP aussi. Mais il y a un grand respect entre eux à chaque fois puisqu'ils risquent leur vie vraiment. Bah, les pilotes de F1 aussi, mais en moto.
C'est cash,
ça paraît encore plus dangereux, effectivement. On l'a vu avec Jonas Folger, le coéquipier de Zarco, qui d'ailleurs, a mis un terme à sa saison. C'est un vrai danger qu'ils prennent tous les week-ends et il y a beaucoup de respect évidemment entre tous les pilotes de MotoGP.
Bah, quand on rappelle qu'ils
ils sont différents, ils sont vraiment différents de nous. J'ai la chance d'avoir un ami qui s'appelle Randy Depugnet.
Voilà, on allait parler de Randy.
Et ils sont vraiment différents. Ils ont pas la même notion du danger que nous et ils se respectent aussi beaucoup, même si c'est tous des compétiteurs.
Ah oui, des compétiteurs extraordinaires. En tout cas, un Grand Prix absolument magnifique. Il en reste deux, hein, dans le championnat. On espère que les deux autres seront du même acabit. Il a aussi pour l'intérêt du championnat, je dirais, on a tendance, espérons que ça puisse se poursuivre, mais bon, les Ducati et Dovizioso étaient.
Et ça s'enchaîne, d'ailleurs. Ça sera dès la semaine prochaine en Malaisie, donc ça va aller très vite, évidemment, pour le MotoGP. Bon, Marquez semble bien parti. Un petit cocorico quand même.
Ah bah oui.
Le rookie de l'année, c'est Johan Zarco. Et voilà, c'est officiel.
Et s'il va en gagner une avant la fin de l'année.
Il est sixième au championnat. Bon, c'était un secret de Polichinelle, évidemment, parce que c'est lui ou Folger. Folger avait arrêté sa saison, forcément. Il avait décroché ce titre, mais c'est bien pour Zarco.
Comme le temps file et qu'on a tellement de choses à dire dans ce moteur, Benoît, je sais que on va passer dans un instant, mais les résultats juste du Moto 2, du Moto 3, si tu veux bien.
Moto 2, victoire de Portugais Miguel Oliveira. Deuxième place pour Brad Binder. D'ailleurs, ils sont dans la même écurie. C'est une belle réussite pour l'écurie Red Bull KTM. Le leader du championnat, c'est toujours Franco Morbidelli. Il termine troisième. Et ça y est, on connaît le champion du monde Moto 3. Ce n'est pas une surprise.
Oui.
C'est l'espagnol Joan Mir.
Il a été dominateur.
Il est allé chercher lui-même sa victoire. Donc, il mérite d'être sacré en Moto 3.
Allez, il faut aller très vite. C'est Radio Paddock maintenant.
RMC Motors. Radio Paddock.
Et les auditeurs fidèles le savent, on a un feuilleton hebdomadaire dans Radio Paddock, c'est l'avenir de Sébastien Ogier. On n'en sait toujours pas plus, où va-t-il signer pour l'année 2018? On a quelques infos supplémentaires tout de même à vous donner. On rappelle que c'est le Mercato en WRC, la saison n'est pas terminée. Il est leader au championnat du monde, il devrait décrocher un nouveau titre de champion du monde.
De rallye au Pays de Galles,
de rallye.
Et on vivra évidemment la semaine prochaine aussi sur RMC, en même temps que le Grand Prix du Mexique.
Exactement, voilà, deux infos à vous donner, une déclaration de Yves Maton, donné cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez vu Adrien et Jean-Luc, il a dit Sébastien Ogier est notre priorité absolue pour l'année prochaine. C'est très important.
Voilà ce qu'on voulait entendre.
Très important. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que Sébastien Loeb allait faire des piges en WRC avec Citroën, mais Maton, Yves Maton, qui affirme que Ogier est sa priorité absolue, c'est quand même une bonne indication qu'il y a vraiment de réelles discussions entre Ogier et Citroën.
Alors, on va y aller d'un mot parce qu'on n'a pas plus de temps et Adrien va me donner. Il faut absolument, absolument, évidemment, chez Citroën. Si on rate une deuxième fois Ogier, ah ouais, pour moi, j'adore Yves Maton et j'adore tous les copains de chez Citroën. C'est une faute professionnelle. On ne peut pas laisser partir Ogier ailleurs. Voilà, je l'ai dit. Je sais pas ce que t'en penses.
Bah oui, oui, c'est clairement, en anglais, on dit unfinished business, avec Ogier et Citroën. Et franchement, depuis l'ère Loeb, et cette séparation avec Citroën, il faut que Ogier soit dans cette voiture française.
Et pour ajouter un tout petit commentaire, je sais que les sommes en jeu sont énormes. Ça dépasse le cadre d'Yves Maton. Je sais bien que les budgets, c'est bien en sûr gros qu'on va les voter. Ça, on le sait. C'est Carlos Tavares. Bah, c'est un sportif, lui aussi. Il adore le sport mécanique. Il faut avoir Ogier, qui est le meilleur pilote du monde. C'est parfaitement clair. Et là aussi, les histoires, si on veut lui permettre de venir s'amuser dans 2-3, mais il faut pas que ça gêne Ogier. Voilà.
Exactement.
J'ai dit.
Et dernière info, WRC, c'est pas très rassurant pour M Sport, puisque Aude Tanak, le coéquipier de Sébastien Ogier, a signé chez Toyota. Donc, une info de plus qui nous dirige vers un arrêt peut-être de M Sport pour la saison 2018.
Arrêt, je ne pense pas, si tu permets, mais tu sais,
beaucoup
lui,
moins d'ambition,
vend, voilà. C'est une équipe client, en fait. Ford n'est pas là, ils n'ont pas dû avoir les assurances de Ford, et c'était la condition sine qua non pour qu'Ogier reste avec Ford. Voilà. Donc allez, Ogier chez Citroën, puis ça aurait de la gueule, quoi.
Voilà, on milite pour Ogier chez Citroën.
On y croit.
Voilà, c'est ça. La deuxième info dont je voulais vous parler, évidemment, on parle beaucoup de sport auto écolo, puisque c'est dans l'air du temps, évidemment, les voitures électriques, et une info qui ne vous a
pas... Pardon, j'ai pas entendu, là.
Oui, je sais que ça te gêne, Paris sans voiture, ça t'a fait du mal, Jean-Luc.
Oh là là,
et c'est peut-être pas terminé.
C'était une journée noire.
On a une grande inquiétude, messieurs, pour l'édition 2018 des 24 heures du Mans. Puisque vous l'avez vu, Audi et Porsche se sont retirés, car ils préfèrent se tourner vers le championnat électrique. Peugeot refuse de revenir également, puisque Peugeot va se lancer dans le rallycross E, donc c'est le rallycross électrique également. On est très inquiet. L'explication, Jean-Luc, c'est surtout financier, en fait.
Alors oui, le président Fillon, on l'a eu tout à l'heure, le président de la CO, effectivement, on est en refonte du règlement. Peut-être on a été un peu lent, je peux me permettre de le dire aussi, parce que le règlement qu'on avait annoncé au 24 heures du Mans, j'étais présent à la conférence de presse, justement, au contraire, mettait en avant beaucoup trop l'électrique. Et moi, j'ai entendu les constructeurs tout de suite, j'avais discuté avec eux après, et avec les représentants de Peugeot, qui ont dit, mais là, on va encore exploser les budgets. Donc peut-être on s'est un tout petit peu loupé, si je peux me permettre, et il va falloir qu'on revienne en arrière maintenant.
Et la priorité, évidemment, pour les organisateurs de 24 heures du Mans, c'est inciter Toyota à rester. Ça
bien
va
sûr
pas être facile.
Qui n'a jamais gagné au Mans.
Mais c'est tout l'enjeu, évidemment. Il faut que Toyota soit là aux 24 heures du Mans en 2018.
Merci Benoît, on a été vite. On avait d'autres sujets, mais on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps parce qu'on a quelqu'un qui s'accroche au volant maintenant, au guidon. Il s'appelle Arnaud Sou, qui s'est pointé.
Moi aussi, je peux faire le franchouillard de base.
Vas-y. Guidon, c'est gentil ça pour nous. Le franchouillard de
base. Non, alors on aimerait qu'il signe chez Citroën, machin.
Je vais vous demander si je suis PSG ou ouais, mais encore parce qu'on me l'a pas du tout.
Ça, je m'en fiche, ça c'est ton problème. C'est ton problème. En revanche, je peux te dire qu'il y a du rugby cet après-midi, la deuxième journée de Champions Cup. Évidemment, des clubs français. Et pas des moindres.
La Rochelle,
ce sera tout à l'heure à 16h15 qui recevront donc les Irlandais de l'Ulster. Et puis Montpellier, ça c'est le coup d'envoi dans 3 minutes. Montpellier qui recevra les Exeter Chiefs. C'est anglais. Exeter, c'est pas rien. C'est
tu quand même le champion.
Exeter Chiefs.
Bravo.
Exeter Chiefs. C'est les champions d'Angleterre. Bon. Ça n'est pas rien pour Montpellier. Ça va être un gros duel. On sera dans quelques instants en direct de l'Altrad Stadium. L'intégral sport arrive. Il y aura du rugby. Il y aura du foot également au programme, évidemment, la Ligue 1. Et il y aura un peu de F1 tout à l'heure, évidemment. On se retrouve 15h30, je te laisse aller faire une petite sieste.
Mais on est là.
Et puis on se retrouve juste après. À tout de suite.
Merci.